midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
Sur Beurre FM.
AVS, à votre santé, bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver, on prend soin de vous, de votre santé, vous savez tous les jours entre midi et 13h sur BFM, aujourd'hui on va prendre soin de votre foie avec le docteur Dominique Lane, bienvenue.
Bonjour Philippe.
Alors, vous êtes hépato-gastro-entérologue et vous publiez NASH, la maladie de la malbouffe, coécrit avec Catherine Siguret aux éditions Flammarion. Le foie c'est compliqué, me dites-vous?
C'est très compliqué. C'est d'abord un illustre inconnu. Les gens connaissent peu le foie et pourtant c'est vraiment la star de notre organisme.
Mais alors vous dites dans votre livre que la plupart des gens ne savent pas où situer le foie. Alors pour tout le monde, c'est où?
Alors c'est comme en polyptique. Il y en a beaucoup qui le situent à gauche dans l'abdomen, d'autres au centre et d'autres à droite. Alors une bonne fois pour toutes, c'est en haut à droite de l'abdomen.
Alors, en haut à droite, oui, d'accord, oui.
Caché sous les côtes, donc à l'état normal, on ne le sent pas,
c'est ce que vous dites. Alors on peut pas le sentir.
Alors que c'est l'organe le plus gros de l'organisme et le plus lourd, eh bien on ne peut pas le sentir.
Alors le plus lourd, le plus gros, c'est-à-dire lourd.
Lourd, ça fait 1,5 kg et c'est à égalité avec le cerveau.
D'accord. Et c'est constitué de deux lobes.
Alors, il y a deux lobes. Ouais. Un grand lobe, c'est le lobe droit, et un plus petit lobe, le lobe gauche. Et ça contient 90 milliards de cellules qui travaillent jour et nuit, en permanence, qui captent tout le sang qui provient de l'intestin, chargé en nutriments. Et c'est un véritable réacteur chimique qui transforme, qui fabrique, qui détoxifie, qui...
C'est un peu la centrale d'épuration du corps, on va dire.
Ah, c'est la centrale d'épuration, c'est la centrale énergétique, c'est la centrale de stockage. Le cœur artificiel existe, le rein artificiel existe, un foie artificiel, vous n'y arriverez pas. Par exemple, ça fabrique plus de 300 molécules indispensables à la vie. Est-ce que vous connaissez une machine qui travaille en silence jour et nuit et qui fabriquerait 300 produits en même temps?
Bon, alors moi j'avais cette idée que ça repoussait le foie. Alors, je sais pas
d'où
je sors
ça. Mais vous avez raison, le foie ça régénère. C'est-à-dire que si vous coupez un morceau de foie, par exemple le lobe gauche, eh bien vous revenez 6 mois après, le lobe gauche aura repoussé. Donc c'est un organe tout à fait extraordinaire.
Bien. Alors, NASH, N-A-S-H, de quoi NASH est-il l'acronyme?
De quoi s'agit-il?
Schoon.
Alors, ce sont les initiales du terme anglo-saxon non-alcoolique, donc ça n'a aucun rapport avec l'alcool. Stéatosis, alors la stéatose, hein, c'est ce qu'on appelle le foie gras. Hépatitis, c'est une hépatite. Donc ça a été repris un petit peu comme le sida, c'était les initiales d'une maladie. Mmh. Et maintenant, dans le monde entier, c'est ce terme qui est repris.
Voilà, et qui est validé.
Et qui est validé
et
par...
On sait de quoi on se bat. Alors donc, pour faire simple, est-ce qu'on peut dire que c'est la cirrhose de ceux qui ne boivent pas?
Alors... Quand on laisse évoluer jusqu'au stade ultime, on arrive effectivement au stade de cirrhose et on peut avoir cette cirrhose donc sans avoir bu une goutte d'alcool.
D'accord. C'est une stéatose non hépatique alors. C'est plus correct.
C'est une stéatose, donc surcharge en graisse. Ça veut dire stéatose, foie gras, mais c'est hépatique, hein, c'est dans le foie. Hein.
Non alcoolique.
Ah, non alcoolique. Oui.
C'est pas une hépatite.
Si, c'est une hépatite.
Ah, c'est une hépatite.
C'est une hépatite. Justement, la NASH, c'est une accumulation de graisse, et cette graisse, eh bien, agresse votre foie, comme une hépatite due à un virus, comme une hépatite due à l'alcool, sauf que ça n'est pas un virus, ça n'est pas l'alcool, c'est la graisse qui est toxique pour votre foie.
Vous expliquez dans votre livre que toutes les maladies du foie sont silencieuses. On va prendre un exemple. La crise de foie, ça n'existe pas.
Alors, oui, tout le monde vient en consultation souvent, enfin, pour des crises de foie. Non, le plus souvent, la crise de foie, c'est dû à l'estomac, hein, mais le foie est très discret et silencieux. Il ne parle pas, surtout dans les maladies graves, comme la cirrhose, comme le cancer du foie. Il ne faut rien attendre en point d'appel pendant des années de
votre
foie.
Quand vous dites des années, c'est quoi?
Alors, une NASH, ça peut évoluer sur 10 10, 20, 30 ans avant d'arriver au stade de cirrhose ou de cancer du foie. Donc vous voyez, c'est un organe qui est très patient, prend tout son temps.
Et pas de symptômes, c'est ça ?
Aucun symptôme, n'attendez aucune douleur qui vous préviendra que votre foie est en train de s'abîmer à cause de la graisse et en train d'évoluer vers la fibrose et la cirrhose.
Les yeux jaunes, on disait ça avant.
Oui, oui. Alors, au stade terminal, de cirrhose, qui on appelle décompensé, ou quand rien ne va plus, quand tout le foie est envahi par la fibrose.
Bien, votre livre, pour qu'on comprenne bien votre démarche, c'est le livre d'un gastro-entérologue lambda qui a décidé de tirer la sonnette d'alarme. Mais la sonnette d'alarme de quoi ?
Alors oui, c'est le livre d'un gastro-entérologue qui a fait 30 ans de consultation et qui a pas mal bourlingué au niveau médical et qui en a vu toutes les couleurs au niveau du foie. Et
donc,
c'est le cas de le dire. Et qui a envie maintenant d'informer, de porter l'alerte sur cette nouvelle maladie que les gens ne connaissent pas.
Pourquoi nouvelle ? Parce que moi, j'ai toujours l'impression qu'on est en train de nous inventer des nouvelles maladies parce qu'on a un traitement à nous refourguer derrière. Alors, comment est-ce qu'une nouvelle maladie, ça arrive comme ça du jour au lendemain ?
Alors bon, je vous rassure, pour l'instant, il n'y a aucun traitement. Hein. Ça viendra peut-être, mais
donc,
là,
ce qui veut dire qu'on n'a pas de laboratoires qui sont en train de nous refourguer
aussi,
un truc.
Si, il y a beaucoup de labos qui sont en train de chercher, mais actuellement, il n'y a aucun traitement médicamenteux pour cette maladie. Alors, pourquoi nouvelle ? Eh bien, parce que c'est une maladie de civilisation qui une véritable épidémie à l'échelon mondial, dû à nos nouveaux modes d'alimentation et nos nouveaux comportements où on bouge de moins en moins. Donc c'est associé à l'obésité, c'est associé au diabète qui explose partout dans le monde. Et associé à ça, eh bien, il y a aussi donc le foie qui trinque et c'est la nage. Donc on en voit
de
plus en plus.
C'est pas innocent quand finalement on voit arriver une nouvelle maladie.
Alors, c'est pas une nouvelle maladie comme s'il y avait une nouvelle infection qui arrivait, quelque chose. C'est quelque chose qui est très sournois, qui se répand à bas bruit. Et comme je vous ai dit que ça s'est étalé sur des vingtaines, 30 ans, c'est quelque chose qui monte en puissance, mais on ne le voit pas venir. Le foie est silencieux. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. Et pourtant, je vous assure, hier, j'ai encore vu quelqu'un qui venait du Maroc, d'ailleurs, qui avait une cirrhose au stade de Nash, on en voit de plus en plus.
Et qui buvait zéro alcool.
Ah, qui buvait zéro alcool. Mon premier cas de Nash que j'ai vu dans les années 90, c'était, je me souviens très bien, une patiente algérienne, un peu enrobée, qui était au stade de cirrhose, qui évidemment ne buvait pas une goutte d'alcool et qui m'avait posé beaucoup de problèmes. On avait été jusqu'à la ponction de foie et puis on avait vu, c'était plein de graisse et il y avait de la cirrhose.
Et vous compreniez pas ?
Ah ben à l'époque on comprenait pas parce que c'était pas encore connu, on en parlait peu. C'est arrivé à partir des années 2000 où en allant au congrès, on a vu que les Américains, parce que ça vient quand même des États-Unis, la malbouffe des États-Unis, eh bien les Américains nous parlaient de plus en plus de cas de cirrhose, de transplantation due à de la graisse dans le foie et à des cirrhoses. Il faut quand même savoir que c'est la première cause de transplantation maintenant de foie aux États-Unis.
Et
ça va le devenir bientôt en France.
Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la cirrhose, ce n'est plus la maladie de ceux qui boivent.
Alors,
exclusivement.
Non. Ah, non, non. La cirrhose, ça n'est pas forcément associé à l'alcool. Justement, beaucoup de personnes ont été accusées de boire et de pas le dire. Mais il faut savoir quand même qu'il y a encore des virus, le virus B, le virus C. Alors que là, il y a des traitements très efficaces maintenant. Il y a d'autres maladies plus rares, comme l'hémochromatose ou d'autres maladies. Et il y a la nage qui va prendre de plus en plus de place.
Alors, il y a eu un avant, c'est une personnalité, mais c'est cette personnalité qui finalement a mis un mot sur la pathologie, c'est Pierre Ménès. Subitement, qu'est-ce que ça a changé dans la compréhension de la Nash et dans la propagation, en tout cas dans la compréhension de la maladie pour le grand public?
Pierre Ménès, c'est finalement l'aboutissement, le pire de ce qu'on peut avoir quand on est au stade de Nash. Ça veut dire que on arrive à la cirrhose et c'est tellement grave qu'il faut changer le foie. Il a fallu le transplanter. Et donc Pierre Ménès, comme c'était une personne médiatique, il a mis en lumière. Donc,
il a illustré.
Il a complètement illustré ce qui peut arriver de plus grave quand on a la nage.
Pierre Ménès, il est en très grand surpoids. Est-ce que ça veut dire que la NASH, c'est la maladie de ceux qui sont en très grand surpoids?
Alors, le plus souvent, associé à la NASH ou favorisant la NASH, c'est sûr qu'il y a le surpoids, l'obésité, il y a le diabète. C'est cette association, hein, et il y a aussi le trop de cholestérol ou de triglycérides dans le sang. Mais évidemment que quand on est obèse ou diabétique, on a beaucoup plus de risques d'avoir cette maladie, la NASH.
Alors c'est courant, puisque vous avancez un chiffre dans votre livre, 30% de la population serait touchée par la stéatose.
Alors attention, 30% de personnes en France ont un foie gras, donc la stéatose. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la NASH.
Non, non, mais par contre, vous dites 30% ont un foie gras.
Ah oui,
c'est beaucoup,
oui,
30%.
Et oui,
finalement.
Ben c'est ce qu'on voit, et ça a augmenté ces 20 dernières années. On voit de plus en plus, quand on fait des échographies, eh bien des foies qui sont ce qu'on appelle brillants et un peu augmentés de volume, qui sont chargés en graisse.
Alors expliquez-nous, docteur Alan, comment est-ce que le foie devient gras? Parce que le foie gras, tel qu'on en a l'image, c'est un animal qu'on va gaver.
Ah ben, vous voyez, on se gaffe pas, les hommes se gaffent pas, mais par contre, ils mangent de plus en plus gras et de plus en plus sucré, et ils bougent de moins en moins. Donc le tout faisant, l'obésité augmente, et vous comprenez bien que quand vous avez 10 kilos en trop, dans ces 10 kilos, il y a de la graisse qui vient au niveau abdominal, mais il y a aussi de la graisse qui vient se fixer au niveau du foie. La deuxième chose qu'il faut bien savoir, c'est que le foie est un véritable magicien. Il transforme le sucre en graisse. C'est-à-dire que si vous mangez très sucré, le sucre, par exemple, par le soda, la boisson très sucrée, il arrive en direct au niveau du foie. Et si le foie est débordé, il va transformer ce sucre en graisse et le stocker.
Oui, parce qu'en fait, la relation entre le sucre et le diabète, on la voit, mais tout le monde ne fait pas forcément la relation entre le sucre et la graisse. Vous voyez.
Et il faut la faire. Le foie est un réacteur chimique. Il est capable de transformer, il prend les molécules et il les transforme avec des enzymes. C'est bourré d'enzymes et il peut transformer le sucre en graisse.
Vous posez la question quand même, parce que vous dites que ce n'est pas forcément ce qu'on appelle la maladie du soda.
Alors si, ça s'appelle surtout aux États-Unis la maladie du soda. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui ne buvaient pas une goutte d'alcool, mais qui carburaient au soda. Ça veut dire qu'ils ne boivent plus d'eau, qu'ils sont capables de boire 2-3 litres de boissons très sucrées. Attention, les États-Unis, on parle toujours des États-Unis, partout dans le monde, et dans certaines régions, dont l'Afrique et le Maghreb, l'élève a pratiquement dépassé le mètre.
C'est-à-dire qu'on a quelques années de retard, mais de toute façon, on fait toujours mieux.
Oh oui, on a beaucoup rattrapé dans certains pays.
Et alors, est-ce qu'on parle de maladie du soda, mais est-ce que c'est la maladie des sodas light? Parce que dans les sodas, vous avez les sodas sucrés, et après, vous avez maintenant la famille des sodas avec édulcorant, zéro sucre, des sucrés.
Si vous voulez, dans tout ce qui est soda sans sucre ou avec ce qui remplace, ça ne va pas entraîner de stéatose ni de NASH. Donc, je ne sais pas quels effets après, parce que c'est très discuté sur la santé, mais concernant le foie, moi, j'ai rien à dire sur les sodas.
Ce qui veut dire, voilà, ça ne trompe pas le cerveau, mais en tout cas, le foie n'est pas impacté si la boisson n'est pas sucrée.
Voilà, c'est le sucre. L'ennemi du foie, c'est le sucre en grande quantité, quel qu'il soit. Maintenant, si c'est un remplaçant du sucre, évidemment, pour le cerveau, ça vous maintient dans une ambiance
sucrée,
d'avoir envie de sucre, et donc c'est peut-être pas très bon. Le mieux, c'est de se désintoxiquer, mais c'est pour le foie, on peut pas dire que c'est mauvais.
D'accord, donc ça c'est important de le savoir.
Donc entre un soda sucré et un soda light, il vaut mieux le soda light.
Bien, et tout ce qui est là, parce qu'on parle toujours des bons et des mauvais sucres, est-ce que...
Le foie pour les sucres est aveugle, vous savez, il reçoit de l'intestin les nutriments, il reçoit les sucres, que ce soit du glucose, du fructose, du saccharose, tout ce que vous voulez, il va les traiter de la même façon, donc c'est l'excès de ces sucres qui est important.
Donc le bon sucre du miel ou des fruits.
Oui, alors le miel,
c'est parfait, non?
Mais le miel, c'est très bon pour la santé, mais c'est quand même il y a beaucoup de sucre et de fructose. Si vous mangez du miel en excès, vous apportez du sucre à votre foie. Donc il faut en manger, mais modérément. Tout est dans la modération, finalement.
Mmh. Idem pour ce qu'on appelle les sucres dits lents.
Alors, les sucres lents, c'est plutôt mieux. Si vous voulez, c'est plutôt mieux. Pourquoi ? Parce que le plus souvent, c'est associé à des fibres. Et donc, ça remplit votre estomac, ça vous donne une sensation de satiété. Donc, vous allez être calé un peu plus rapidement. C'est absorbé un peu plus lentement au niveau de l'intestin. Donc, entre sucre très rapide qu'on retrouve dans le soda ou tout ce qui a goût de très sucré, hein, les sucreries, et sucre lent, moi, je préfère les sucres lents avec le pain.
D'accord, mais est-ce que le foie fait la distinction ?
Il a fait pas, mais il lui en arrivera moins. Et puis, mais c'est pareil. Hein, si vous vous bourrez de sucre lent, le résultat sera le même.
NASH, donc NASH, la maladie de la malbouffe. On en parle ce matin avec le docteur Dominique Lane aux éditions Flammarion. Vous êtes bien sûr invité à poser vos questions en direct si vous êtes concerné ou si vous avez quelqu'un de votre entourage ou si peut-être vous posez des questions sur votre foie. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec le docteur Dominique Lane qui est avec nous, hépato-gastro-entérologue. Docteur Lane, vous publiez NASH, la maladie de la malbouffe. Je le montre à l'écran comme ça. Alors, NASH, un acronyme qui signifie, on le rappelle pour ceux qui prennent l'émission en route...
Non-alcoolique stéatohépatitis, ce sont les initiales du terme anglais... de cette maladie.
Bon, pour comprendre clairement ce que c'est finalement, c'est quoi ?
Alors, si vous voulez comprendre, c'est pas compliqué, il suffit de prendre un petit morceau de foie et de le regarder au microscope. Qu'est-ce que vous allez voir dans la NASH ? Vous allez voir des cellules du foie qui sont gonflées avec des petites bulles de graisse. C'est ce qu'on appelle la stéatose, c'est le foie gras. C'est d'ailleurs très joli à voir au microscope. Mais dans la NASH, en plus, il y a de l'inflammation. Donc une véritable hépatite, il y a des cellules de l'inflammation qui viennent en plus sur cette stéatose. Et ensuite, la conséquence, c'est ce qui fait la gravité de cette maladie, c'est la fibrose, c'est un tissu fibreux qui n'est pas que ce que j'appelle dans le livre des petites fibres de plastique, parce que ça n'est pas dégradable. Une fois que c'est constitué, ça a tendance à rester. Et à l'extrême, quand il y a énormément de fibrose et que le foie est complètement envahi par ces petites fibres, le foie est étouffé par cette fibrose, c'est la cirrhose.
Mais est-ce que ça veut dire que c'est le stade d'après, c'est-à-dire la cirrhose qui est grave, alors que si on reste au stade de la NASH, bon...
Alors oui, le problème c'est que ça évolue quand même lentement mais sûrement au fil des années, inexorablement, de plus en plus de fibrose jusqu'à la cirrhose. Donc il faut essayer d'arrêter au maximum l'évolution. Et malheureusement, de temps en temps, cette cirrhose peut évoluer en cancer du foie.
Bien, alors Abdou nous appelle au 01 53 48 3000. Abdou, bienvenue.
Bonjour, bonjour docteur, bonjour toute l'équipe.
Bonjour Abdou.
Bonjour docteur. Oui, j'appelle d'Aubervilliers.
Ah ben c'est pas très grave, ça c'est même plutôt bien. Bon, comment va votre foie, Aubervilliers, Abdou ?
Habib, oui.
Habib ?
Bon, oui, Habib, voilà.
Bon.
Ouais. Bon, moi j'arrive pas à maigrir, j'ai 68 ans.
Oui.
Un ancien sportif, je cours toujours, je fais du footing, je travaille ambulancier toujours, et je fais un peu de régime, j'arrive pas à maigrir. J'ai 95 kilos, 1m72. Est-ce que mon foie, il a un problème ? J'ai passé des radios et le docteur, il me dit, le foie, la prostate, tout, ça va bien.
Bon.
Ah, alors, c'est déjà pas mal si votre médecin vous a dit que le foie allait bien. Alors, oui. C'est vrai que ça arrive assez souvent. Vous êtes un ancien sportif et je suppose que vous avez arrêté donc le sport pour travailler. Et puis, alors après, vous dites que vous faites un petit régime. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, mais
je mange pas des pâtes le soir. Je mange une salade le soir.
Oui, mais par exemple,
je mange à midi.
D'accord.
Une crocotte grillée ou quelque chose comme ça.
Oui, mais par exemple, quand vous buvez du café, est-ce que vous mettez du sucre ?
Non, le café, je le fais à la maison, sans sucre.
C'est très bien, donc vous commencez bien. Oui. Est-ce que vous buvez des boissons très sucrées?
Non, parce que j'ai le diabète type 2.
Ah ben oui, alors oui, vous êtes dans ce qui est très fréquent maintenant.
Un comprimé le matin, un glucophage, et un comprimé le soir.
Oui. C'est
toujours un gramme, un gramme 10, un gramme 8, un gramme 15.
Oui, mais 15, voilà. Vous mangez pas du sucre quelque part, là? Regardez, cherchez bien.
Des fois, oui. Ah. Je prends confiture. Je cherche toujours les sucres dedans. À 13 grammes, 20 grammes, aux 100 grammes. J'ai toujours les confitures moins sucrées. Alors, pour la tartine le matin.
Bon, et la seule chose que je peux vous encourager à faire, c'est de manger encore moins gras et moins sucré. Et peut-être d'augmenter votre activité physique, parce qu'il faut en parler aussi.
Mais la question de la Bible, c'était de dire finalement, je fais des efforts, mais j'arrive pas à mincir. Oui. Est-ce que mon foie est impliqué dans ça?
Voilà.
Alors,
voilà.
Il pourrait être impliqué. Ceci dit, si vous avez une échographie du foie qui vous dit que il y a pas de stéatose, et si vous avez une prise de sang sur le foie qui vous dit que tout va bien, voilà, restons-en là. Hein. Mais continuez quand même les efforts.
Bien, merci Habib. Farida est avec nous. Bienvenue Farida.
Oui, bonjour.
Bonjour Farida.
Merci. Voilà, bonjour docteur.
Bonjour.
Moi j'ai une question à vous poser. Bon, je suis en surpoids. Je commence à faire un régime depuis un moment et puis là je stagne. Mais ce qui me vient à l'idée, là j'ai perdu ma maman en 2000 et d'origine maghrébine et elle a eu un cancer du foie et de la vésicule biliaire. Et je pense beaucoup à ça, en me disant, est-ce que... Bon, je sais que c'est pas... Comment dire?
C'est pas héréditaire, hein, quand même.
Voilà, c'est pas héréditaire, mais voilà, comme j'arrive aux âges où elle est partie...
Et est-ce que vous savez quelle était l'origine du cancer du foie? S'il y avait une hépatite? Non, on sait pas.
Elle a eu une jaunisse avant de partir, mais on n'a pas su... On n'a pas eu un bon dialogue avec l'oncologie de l'époque.
Oui.
Et elle est partie très très vite. Donc voilà.
Et donc vous avez peur pour votre foie?
Oui, j'ai peur, mais bon, j'ai pas de diabète. Pourtant, je suis très portée sur le sucre.
Alors, moi, je voudrais compléter ce que dit Farida, parce que comment, pour quelqu'un comme Farida qui s'inquiète, savoir si son foie va bien? Est-ce qu'il y a des examens qui permettent de faire un bilan du foie?
Alors oui, pour Farida, par exemple, elle peut faire une échographie du foie. Donc, on va voir son foie et on va voir s'il est homogène ou s'il est chargé en graisse ou s'il y a quelque chose d'anormal. Donc, déjà, pour rassurer Farida, c'est faire une échographie. Ensuite, c'est faire une prise de sang avec ce qu'on appelle le bilan hépatique. Il y a les transaminases, il y a les gamma GT. Et si ce bilan est perturbé, bon, ben là, ça incite à aller un petit peu plus loin et aller voir un spécialiste du foie. Maintenant, concernant sa mère, il est possible que ce soit un cancer qui était sur une cirrhose due à une NASH. Mais après, ça pouvait être aussi une hépatite B, une hépatite C ou une autre maladie. Mais déjà, qu'elle sache que ce n'est pas héréditaire. Hein.
Merci. Et quand vous dites que le foie il se régénère, on n'aurait pas pu... Voilà, c'est assez. Bon, comme je... Bon, j'ai toujours pas fait le deuil du départ. On n'aurait pas... Enfin, je sais pas comment vous dire.
Non, pour votre mère, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose?
Oui. Alors, parce qu'on nous dit qu'on n'est pas tombé dans un bon hôpital.
Non, mais alors, écoutez, le cancer du foie est toujours de très mauvais pronostics. Et le foie, c'est ce que je dis dans mon livre, est d'une perfidité, d'une sournoiserie incroyable. Ça veut dire que un cancer du foie, ça pousse tout doucement, on ne se rend compte de rien, et ça n'est qu'au dernier moment que les choses...
Il n'y a pas de symptômes, c'est incroyable.
Quand ils y sont, c'est un peu tardif.
Ouais, vous savez, un ventre qui a enflé vers la fin, quoi.
Oui, mais c'est qu'on était à un stade tardif et malheureusement là, quelle que soit la structure médicale où elle aurait été prise, le pronostic était difficile.
Bien. Je vous remercie, monsieur.
Merci, voilà. Farida, pour votre question. Merci. Alors, est-ce qu'il existe des tests de dépistage de la NASH?
Alors, c'est tout le problème. Aujourd'hui, il n'y a aucun test qui va vous dire, vous avez la NASH à coup sûr. Donc, on est obligé de s'entourer de plusieurs tests et de les confronter les uns aux autres pour dire, vous avez probablement une NASH. Alors, les tests qu'on peut faire, c'est premièrement, c'est ce que je vous disais, l'échographie du foie, où on va voir un foie gras chargé D'accord. en graisse. Ensuite, ce qui peut porter l'alerte sur le foie, c'est le bilan hépatique, donc les transaminases, les gamma-GT, quand elles sont élevées, mais qui n'ont aucune spécificité, ça peut être une autre maladie du foie. Et ensuite, vous avez des tests, ce qu'on appelle des tests non-invasifs, qui vont vous dire si vous avez de la fibrose, si vous avez une cirrhose, ou si vous avez un foie complètement sain. Ça se fait par des prises de sang, ça s'appelle le fibromètre, ou le fibrotest, où ça se fait par un examen spécial qui s'appelle l'élastométrie, une sorte d'échographie. On vous envoie une onde dans le foie, c'est totalement indolore et rapide. Et plus cette onde se propage rapidement dans votre foie, et plus vous avez de fibrose, et plus vous êtes vers le stade de cirrhose.
Mais donc, qu'est-ce qui peut amener un patient à justement faire ces examens?
Alors,
si vous dites qu'il n'y a pas de symptômes et que finalement tout va bien,
souvent, ce sont nos collègues, par exemple en endocrinologie ou en médecine générale, qui ont des patients qui sont en surcharge ou obèses, avec du diabète, par exemple, ou souvent, c'est vrai que c'est fait à l'occasion de douleurs qui n'ont rien à voir avec le foie, où on fait une échographie, par exemple, et où on va dire on voit rien, mais vous avez le foie qui est trop gras.
Est-ce que ce sont forcément des personnes en surpoids qui sont touchées?
Le plus souvent, oui. Mais attention, vous avez une forme rare, mais qui touche 10% des patients qui ont une NASH, qu'on appelle la lean NASH. Ce sont des patients qui ne sont pas obèses, qui mangent quand même très sucré et très gras, et qui ont quand même une stéatose et une inflammation et une NASH.
Alors, vous expliquez qu'un foie qui dysfonctionne entraîne une forme de dépression. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Alors, ce que je veux dire, c'est que le foie, je vous ai dit, ça fabriquait plus de 300 molécules, des préhormones, des hormones, ça intervient dans les vitamines, etc. Et donc, évidemment, quand on arrive au stade où le foie fonctionne moins bien, quand il y a beaucoup de fibrose, il fabrique moins bien toutes ces molécules, et ça peut entraîner de la fatigue ou ça peut porter sur le moral, des choses comme ça.
Dans ce cas-là, on mange un petit carré de chocolat et ça va mieux.
Oui, sur le coup. Oui, vous raisonnez exactement comme tous ceux qui mangent très sucré. C'est une addiction qui va, sur le coup, vous faire plaisir. Ça va durer quelques secondes.
Mais est-ce que le chocolat, c'est mauvais pour le foie? C'est une des questions que vous posez, parce qu'on dit toujours, oui, mais le chocolat, c'est mauvais pour le foie.
Non, le chocolat, rien n'est mauvais si on n'en abuse pas. Un carré de chocolat, c'est assez gras et sucré, mais évidemment, moi aussi, j'en mange de temps en temps. Ça fait du bien. C'est l'excès qui est mauvais.
En tout. Sarah, vous êtes avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue, Sarah.
Merci.
Voilà.
Bonjour.
Sarah, merci.
Bonjour.
De baisser le son de votre radio, le kit main libre si vous y êtes.
Je l'ai enlevé.
C'est parfait. On vous écoute, Sarah.
Alors, moi, j'appelle pour une question un peu comme les autres auditeurs. Donc, moi, je suis en obésité morbide, on peut le dire. J'ai moins de 30 ans et je fais 120 kilos pour 1m62.
Oui.
Voilà, j'ai pris énormément de poids suite à une dépression. J'essaye de faire un rééquilibrage alimentaire. Ça marche un temps et ça s'arrête. Et j'ai remarqué que j'avais souvent des douleurs au niveau du thorax.
Oui, alors, une fois de plus, ça n'est pas le foie. Le foie n'entraîne pas de douleur, même si vous êtes en gros surpoids. Alors, dans votre cas, si les régimes ne marchent pas, si vous dites que vous êtes en obésité morbide, ça veut dire assez importante, vous savez qu'il y a la chirurgie, ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique, qu'on a dû sans doute vous en parler, qui peut être très efficace, vous faire perdre entre 20 et 30 kilos, mais qui n'empêchera pas qu'il faut quand même surveiller son alimentation.
C'est pas magique.
Oui.
Alors Sarah, est-ce que vous êtes... Oui.
Donc, D'accord, je pensais que ça avait peut-être un rapport parce que c'est vrai que quand on mange pas sain, ça provoque. Enfin, moi, quand je mange pas équilibré, ça me provoque des douleurs et on.
Oui, mais vous savez, ça peut être des douleurs dues à l'estomac ou dues à l'intestin. Après, attention, il peut y avoir d'autres problèmes comme un calcul dans la vésicule et ça peut entraîner des douleurs. Effectivement, avec votre poids, vous êtes quand même plus à risque d'avoir un foie très chargé en graisse et plus à risque d'avoir une NASH. Maintenant, il faut faire les examens pour le savoir.
Et je voulais savoir, par exemple, est-ce que certains médicaments peuvent nuire au foie?
Ah, alors c'est une bonne question, ça.
Alors oui, il y a des médicaments qui peuvent entraîner des hépatites, qui peuvent être très sévères. Mais bon, là, on peut pas tous les citer. Il peut y avoir des antibiotiques, il peut y avoir des anti-inflammatoires, il peut y avoir des médicaments effectivement qui sont toxiques pour le foie.
D'accord, parce que vu que je prends, à cause de ma dépression, je prends des antidépresseurs et du coup, je voulais savoir s'il y avait un risque ou pas.
Alors, les antidépresseurs, en général, oui, peuvent modifier le fonctionnement du foie et ça peut se voir sur un bilan hépatique un peu perturbé. De temps en temps, ça peut entraîner des hépatites sérieuses. Maintenant, vous êtes suivi par votre médecin, je pense qu'il a dû vous faire des prises de sang et contrôler tout ça.
Est-ce que ça a été vérifié, Sarah?
Je fais un bilan tous les 3-4 mois.
Voilà.
Oui, à peu près.
Et qu'est-ce qu'il donne alors sur le foie?
Il me dit que pour le moment ça va parce que je suis encore jeune et que je suis pas dépendante à ça.
Bon.
Et que de toute façon, voilà. Mais bon, c'est vrai que quand on se pose quand même pas mal de questions parce que quand on n'est pas du milieu. On regarde plein de conneries sur Internet.
Oui, c'est le problème. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'apparemment, votre foie, là, il supporte bien les médicaments, vu ce que vous me dites, vous êtes suivi. Par contre, je vous engage à continuer à bien équilibrer l'alimentation et puis à peut-être augmenter l'activité physique.
Ouais, c'est ça l'inconvénient.
Il faut bouger.
Parfois, quand on fait 120 kilos, c'est le serpent qui se
passe. Oui.
C'est un cercle vicieux parce que plus on est lourd, moins on bouge. Vous voyez,
il arrive un moment où c'est vrai qu'on est trop lourd et on bouge de moins en moins. Il faut arriver à rompre ce cercle vicieux.
Je suis j'ai du poids, mais pas en masse. C'est-à-dire que ça se voit pas sur mon corps.
Mais la balance le dit quand même.
Oui, la balance le dit, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que une personne dans la rue va me dire je suis pas.
Ça se voit pas comme ça de prime abord. Voilà. Il faut continuer les efforts et je vous dis à l'extrême, vu ce que vous me dites, c'est la chirurgie bariatrique.
D'accord. Bon, écoutez, je vais essayer de voir tout ça et puis.
Avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur ce genre d'opération, parfois il faut expliquer aux gens quelles sont les conséquences, parce que tout souvent on présente la chirurgie bariatrique comme quelque chose de miraculeux, mais il faut quand même expliquer aux gens en quoi ça les engage et.
Je suis d'accord. La chirurgie bariatrique, on le fait dos au mur, c'est pas de gaieté de cœur. C'est une chirurgie qui est difficile, qui a ses risques, mais c'est vrai qu'on la propose quand même chez les personnes qui ont ce qu'on appelle une obésité morbide, ça veut dire très 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 importante, et qui après 1 à 2 ans d'essai de régime n'arrive pas à perdre de poids.
Merci Sarah en tout cas pour votre question. 4 lettres dont on parle ce matin, NASH, la NASH, la maladie de la malbouffe. Vous écrivez un livre sur le sujet, c'est le premier. Docteur Dominique Lahn, un livre que vous avez coécrit avec Catherine Siguré aux éditions Flammarion. Et on en parle dans un instant. Si vous avez des questions, posez-les au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et vous êtes amené à entendre parler de plus en plus de cette maladie, la NASH. Hein, on dit la NASH, N-A-S-H, la maladie de la malbouffe. Hein, c'est le titre du livre que notre invité ce matin a publié. Il s'appelle Docteur Dominique Lane avec Catherine Séguré aux éditions Flammarion. On apprend beaucoup de choses sur notre foie. Je suis content qu'il y ait une réponse que vous apportiez dans votre livre. C'est cette manie qu'on a, que les gens ont de boire du citron.
Ah.
Parce que le citron, c'est bon et ça serait formidable pour détoxifier le foie.
Oui, vous allez m'attirer des ennuis. Alors, qu'est-ce que je dis dans le livre ? Je dis que ça n'est pas mauvais puisque c'est de l'eau avec un peu de citron, donc c'est pas de sucre et pas de graisse, donc ça ne fera pas de mal. La deuxième chose, c'est que quand vous commencez votre journée avec un jus de citron un peu amer, eh bien, c'est sûr que après vous avez moins envie de manger sucré. Mmh. Et donc, alors maintenant, pour l'efficacité de ce jus de citron sur le foie, honnêtement, au niveau scientifique, rien n'a été démontré. Mais mais boire un jus de citron, et vous savez que énormément de gens en ce moment le boivent.
C'est la mode, hein.
Oui, c'est à la mode, mais c'est des gens qui finalement ont pris conscience que d'abord leur foie existait, qu'il fallait en prendre soin, et peut-être qu'ils vont ensuite s'inscrire dans une salle de gym, plus bouger et mieux manger. Bon, donc j'ai rien contre.
Vous êtes normand, donc vous dites que c'est le début d'une prise de conscience.
Voilà,
alors
exactement.
Plus intéressant, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose, et on fait beaucoup d'émissions là-dessus, c'est ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique, qui est très à la mode aujourd'hui. Est-ce que jeûner, c'est bon pour le foie ?
Ça ne peut pas être mauvais dans le sens où un foie, je vous ai dit que c'était un lieu de stockage du sucre ou des graisses. Donc quand vous jeûnez, eh ben, votre organisme va avoir faim et il va aller puiser dans ses réserves. Donc ça va un petit peu écluser votre foie. Maintenant, c'est pas parce que vous jeûnez que vous n'aurez pas de NASH, parce qu'un jeûne, c'est ne pas manger pendant une semaine, pendant 15 jours. Mais
le ramadan, c'est 30 jours.
30 jours. Mais oui, mais on mange quand même la nuit.
Oui, on mange, mais c'est un jeûne diurne. Après, vous n'êtes pas obligé de vous goinfrer.
Vous savez, le foie, il ne voit pas la différence entre le jour et la nuit. Hein. Il prend tout ce qui lui arrive. Mais après, c'est tout ce qui se passe le reste de l'année. Quoi.
Bon, les gélules de pépins de raisin.
C'est pas gras, pas sucré, et c'est vrai que c'est classiquement utilisé comme ayant des bienfaits sur le foie.
Thé ou café, ennemi du foie ou pas ?
Alors thé et café, la théine ou la caféine, vous savez que c'est la même molécule. Alors là, il y a des études scientifiques chez la souris et chez l'homme qui auraient tendance à montrer que c'est plutôt bon pour le foie et que c'est un facteur antifibrosant. Maintenant, attention, n'attendons pas de miracle quand même. Ne buvons pas 15 cafés, parce qu'après, il y a des effets délétères au niveau cardiovasculaire si vous en prenez trop.
Bien, Patricia est avec nous au 01-53-48-3000. Patricia, bienvenue.
Bonjour.
Bienvenue sur Beurre FM, Patricia.
Bonjour.
Bonjour, docteur.
Bonjour.
Il s'avère qu'il y a 10 ans, on m'a découvert un foie un peu gras.
Oui.
Donc, je suis suivie là actuellement, mais pas régulièrement. Je prends des antidépresseurs et j'avais pris 15 kilos.
Oui.
Or, actuellement, je les ai reperdus. J'ai perdu 10 kilos.
Mmh.
Et j'ai été opérée de la vésicule biliaire.
Oui.
Donc, je voulais savoir s'il y avait des conséquences graves.
Écoutez, bon, vous aviez un foie chargé en graisse, donc un foie gras, mais vous aviez pris 10 kilos, donc là, rien d'anormal. 15 kilos. Donc en prenant 15 kilos, il y a de la graisse et il y a de la graisse qui vient au niveau du foie. Vous preniez des antidépresseurs qui pouvaient agir aussi un petit peu au niveau du foie, mais vous dites que là, vous n'en prenez plus et que vous avez reperdu du poids, si j'ai bien compris. Donc,
prends toujours des antidépresseurs.
Alors, vous en prenez toujours, mais ça, votre médecin doit vous surveiller une fois de temps en temps par une prise de sang pour voir si c'est bien supporté. Mais concernant votre foie et la NASH, vous n'avez pas de risque particulier d'avoir une NASH.
D'accord.
Je ne suis pas inquiet pour vous.
L'alcool.
Comment ?
Je, Je buvais de l'alcool.
Alors, c'est sûr que l'alcool est aussi une cause de foie gras, hein, de stéatose. Si vous en buviez beaucoup, alors là, on est dans un autre problème du foie, qui est les problèmes d'alcool et du foie, qui peuvent effectivement arriver jusqu'au stade de fibrose et de cirrhose s'il y a excès.
D'accord, mais là, c'est un autre sujet.
Voilà. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, maintenant, il y a des gens qui peuvent manger très gras, très sucré et boire de l'alcool, par exemple.
Si on nous découvre un foie gras, qu'on a 15 kilos en trop, est-ce que le fait de perdre ces 15 kilos, ça nous débarrasse du gras dans le foie? Et comment on s'en débarrasse sinon?
Oui, oui. Perdre du poids, c'est perdre de la graisse au niveau du foie.
Forcément.
Forcément, le plus souvent. Après, il faut contrôler par une échographie. En général, par exemple, les patients, on leur dit, écoutez, perdez 5 kilos, et puis on refait une échographie dans 6 mois ou dans un an, et en général, on voit une amélioration.
Tu sais, les hommes sont beaucoup plus gras du bas que les femmes. Alors, regardez pas comme ça, je vous montre à vous.
Oui, la ceinture, oui, je vois.
Les
gens ont compris ce que montrait Philippe. Il montre là une belle bouée autour du ventre. Alors oui, cette bouée autour du ventre, c'est de la graisse qu'on appelle la graisse intra-abdominale.
Mais est-ce que cette graisse-là, elle signifie qu'il y a plus de chances d'avoir un foie gras?
Oui, elle signifie effectivement que le foie est probablement chargé en graisse.
C'est pas, bon. pas de la mienne, docteur. Je vais vous pousser. Est-ce que les cures détox, ça aussi, pareil, très à la mode, détox pour le foie, agissent sur la graisse du foie?
Bon, alors, c'est très à la mode. C'est vrai que le foie, dans toutes les fonctions que je vous ai dit, a un rôle de détoxification des molécules toxiques qui transforment en molécules inoffensives. Maintenant, il y a plein de produits, que ce soit des plantes, des médicaments, enfin plein de choses qu'on dit être détoxifiant, rien n'est prouvé en général au niveau scientifique, il n'y a pas d'essai là-dessus. Maintenant, si c'est pas dangereux et que ça fait prendre conscience aux gens qui rentrent dans un changement de vie, changement alimentaire, qui vont faire du sport, j'ai rien contre si ça peut les aider.
Rachida, vous êtes là, au 01 53 48 3000, bienvenue Rachida.
Oui, bonjour.
Rachida, oui, on écoute votre question.
Oui, bonjour. Alors, je vous appelle parce que j'ai un petit souci En fait, quand je fais mes prises de sang, j'ai des gamma GT qui sont un petit peu élevés.
Oui.
Et donc, dernièrement, j'ai fait une échographie du foie. Et la dame qui m'a fait donc l'échographie m'a dit que le foie était légèrement, était un petit peu gros et gras.
Oui.
Et donc, quand j'ai ramené les résultats à ma généraliste, donc elle me dit que bon, elle me dit qu'il fallait pas tenir compte de cette échographie.
Oui.
Car les triglycérides étaient normales, que j'avais pas de problème de. Qu'on appelle ça
De cholestérol ou de.
Cholestérol, tout. Non, tout est normal.
Et il n'y avait pas de diabète?
Non.
Oui. Bah, écoutez, vous êtes ce qu'on voit maintenant le plus souvent. Vous savez, les gamma GT, c'est le test le plus sensible du foie. Quel que soit ce qui se passe au niveau du foie, c'est toujours les gamma GT qui montent en premier. C'est probablement lié à votre petite surcharge en graisse au niveau du foie, mais je vois rien de grave dans votre cas. Ça n'est pas associé à un diabète. Il n'y a pas de trop de cholestérol, trop de triglycérides. Je sais pas si au niveau du poids où vous en êtes.
Au niveau du poids, je fais 1m60 pour 70 kilos. Donc je suis, c'est vrai, effectivement en surpoids.
Bon, en surpoids, ce que je vous conseille, manger moins gras, moins sucré, bouger, faites du sport, de la marche, perdez quelques kilos et puis vous ne rentrez pas dans la case Nash dans votre cas.
D'accord. Bon, j'avais peur d'autres maladies effectivement au niveau du foie.
Écoutez,
étant donné que bon, l'échographie montrait que
le foie était un peu augmenté de volume.
Oui, voilà. Mais en fait, ma généraliste me dit non.
Oui, votre généraliste a raison. Très souvent, sur les échographies, on voit foie augmenté de volume ou hépatomégalie. Et il faut bien voir, regardez, il y a
hépatomégalie.
Ça veut dire gros foie, c'est le terme médical.
Mais gros, ça ne veut pas dire gras.
Le plus souvent, c'est associé quand à de la graisse, mais regardez, il y a des gens qui ont des grandes oreilles, d'autres des nez qui sont très longs, et bien le foie, c'est un peu pareil. Donc, il faut savoir raison garder quand on vous dit un gros foie.
Merci Rachida. Lila, vous patientez, vous êtes toujours là?
Oui.
Merci Lila de votre patience. Quelle est votre question?
Alors bonjour Barachem, bonjour docteur.
Bonjour.
Voilà, ma question c'est que on m'a dit j'avais des problèmes d'estomac, j'avais la bactérie
Helicobacter pylori.
Ah, j'ai pris des antibiotiques, ça va mieux. Par contre, j'ai toujours des problèmes, des problèmes de digestion et tout. Et quand j'ai fait une échographie, le médecin me dit que j'avais un gros foie brillant.
Oui, ça veut dire un foie brillant, ça veut dire qu'il renvoie beaucoup les échos et donc c'est associé au foie gras, à de la graisse dans le foie. Donc vous avez une stéatose.
Oui, on m'a dit, mais pas stéatose, je vais écrire ça.
Oui.
On m'a dit ne pas trop m'inquiéter, beaucoup de personnes avaient ça, mais moi j'ai jamais eu de traitement, j'ai rien. En fait, je sais pas comment.
Oui, alors parce que y a le seul traitement, c'est de manger moins gras, moins sucré et de perdre un peu de poids. Et en perdant du poids, vous allez perdre la graisse qui est au niveau du foie.
En fait, je suis pas grosse, hein.
Alors,
ça c'est intéressant.
Oui, ouais. Alors là vous rentrez dans ce qu'on appelle les gens ce qu'on appelait la l'INASH, mais ce qui veut pas dire vous avez une NASH, mais vous avez un peu trop de graisse dans le foie alors que vous n'êtes pas en obésité. Par contre, est-ce que vous mangez quand même très sucré par exemple?
Oui, je mange sucré tout le temps en fait, à 4 heures on va dire.
Oui, c'est ça.
Je prends le fromage le matin. Comme le docteur Delabo le conseille.
Oui, mais aux 4 heures, qu'est-ce que vous mangez, par exemple?
Je bois un petit thé ou un petit café au lait avec un petit gâteau, on va dire.
Et du sucre?
Souvent, c'est des gâteaux. Oui, café toujours sucré. Hein.
Toujours sucré, oui, mais normalement, c'est toujours sans sucre, justement. Vous voyez, il faut revoir ça. Un café, je vous assure.
C'est ce qu'on dit toujours. Tellement meilleur quand il n'y a pas de sucre.
Eh oui, et vous vous rendrez compte 2-3 mois après que vous ne supporterez plus quand vous mettiez de rajouter du sucre.
Oui, mais c'est comme tout. C'est comme l'eau froide.
C'est comme
on
tout,
sait que c'est bon, difficile. Mais c'est difficile.
Oui.
Merci Lila en tout cas de votre question. En tout cas, c'est passionnant, docteur Dominique Lane. Vos explications sont aussi claires que celles qu'il y a dans votre livre. Ça s'appelle NASH, la maladie de la malbouffe, que vous avez écrit avec Catherine Sigureux, édition Flammarion. Vous venez quand vous voulez.
Eh bien, merci.
Voilà, et demain, c'est Karima qui sera avec nous. Passez une très belle journée sur Beurre FM.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM.